votre santé. Écoutez MDM, la seule radio locale de Mont-de-Marsan.
La dérobade sur MDM. Dérobade, nom féminin, pour rappel, la définition, action de se dérober. Oui, on ne le rappellera jamais assez, les mots ont un sens, une évidence qui malheureusement s'estompe dans le triste reflet d'une époque où bon nombre d'appellations se voient vidées de leur substance quand elles ne sont pas souillées ou détournées. Exemple avec un de ces mots en vogue, trop peut-être, populisme. Hein, qui t'a dit ? J'ai dit populisme. Eh, il y a des mots, c'est un peu comme laïcité, par exemple, tu sais même plus ce que ça veut dire. Heureusement, dans la dérobade, Romain Baxer veille pour nous éclairer avec à la main, dans le rôle de la torche lumineuse, sémantique et politique, le dernier ouvrage du journaliste américain Thomas Frank.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais.
Il est des poncifs qu'il ne faut pas oublier. Pendant qu'on lit des livres... Au moins, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, au moins on n'est pas devant la télé. Romain Baxer, bonjour.
Oui, bonjour Anthony, bonjour chers auditeurs, chères auditrices.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas regardé la petite lucarne,
le petit écran ? Ah, bah écoutez, j'ai passé une nuit à l'hôtel il y a quelques semaines.
Ah, merde.
Là, j'ai vu en effet la télé, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. C'est fascinant.
Parce que moi, en fait, la dernière fois que j'ai regardé le petit écran, je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle CNews, avec le rédacteur en chef qui s'appelle Vincent Bolloré, c'est ça. Et
voilà.
Et il disait des trucs dedans. Ouh là là.
Punchy, comme
oui,
on dit.
Ce qui nous amène, transition te trouver.
Transition, parce que Bolloré et le populisme.
Ah oui.
Ça le connaît. Alors, le livre chroniqué aujourd'hui, c'est un livre d'un journaliste américain, Thomas ouais. Frank, qui vient de publier aux éditions Agone, dans l'excellente traduction donc, de Étienne Daubenesque, « Le populisme, voilà l'ennemi ». Titre ironique, en fait,
oui.
Puisque le sous-titre est le suivant. « Brève histoire de la haine du peuple et de la peur de la démocratie des années 1890 à nos jours ». Donc dans ce titre, « Le populisme, voilà l'ennemi », là c'est plutôt dans la voie des élites. Vous
ouais.
voyez, Thomas Frank, lui, il est clairement hein, pour un populisme de gauche. Mais là, on va en parler largement de ce fameux mot « populisme hein, », parce que vraiment... comment s'y retrouver, en fait, dans ce mot.
Et d'où ça vient ? Benito Populi, qui a donné son nom à...
Oui, du latin populus.
Ben oui.
Tout à fait, ça vient du latin populus. Et on va justement en faire un peu la genèse dans cette chronique de ce mot populisme.
Qui est employé finalement à toutes les sauces.
À tort et à travers, vraiment, on ne sait même plus comment s'y repérer. Quoi, hein. Je veux dire, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant même par les centristes, tout le monde l'a à la bouche.
Il y a un populisme du centre ?
Oui, on peut le trouver.
Ah, merde.
Mais oui, on est pour le bien commun, le vivre ensemble.
Populisme écolo.
On est au centre, voilà. On peut aller dans l'écologie, on peut brosser large, comme on dit. Donc, pour revenir avec Thomas Frank sur l'origine donc, de ce mot, et bien évidemment les usages politiques hein, qui en ont été faits tout au long du XXe siècle, principalement aux États-Unis. Hein, c'est ça qui est très intéressant. Dans l'ouvrage de Thomas Frank, c'est un ouvrage extrêmement... direct, fluide et accessible. Hein. C'est ça qu'on aime bien, enfin, ça que j'aime bien, du moins, avec la littérature critique américaine. C'est, même quand ce sont des anthropologues, des universitaires patentés, ils se rendent toujours accessibles dans leurs écrits. Hein. Et là, c'est vraiment le cas de Thomas Frank, qui est donc journaliste, hein, qui écrit d'ailleurs de temps à autre dans le monde diplomatique. Donc, le populisme, voilà l'ennemi. Alors, on peut rappeler précédemment deux ouvrages hein, déjà traduits de Thomas Frank, aux éditions Agone également. Vous allez voir, les titres sont parlants. Pourquoi les pauvres votent à droite.
Ça, c'est une bonne question, comme on les aime dans la dérobade.
Pour lire le livre.
Ouais. Alors, pourquoi... Alors, je peux aller plus loin. Bon, on est bien d'accord que tous nos dirigeants, il n'y en a aucun qui mange au resto du cœur, hein, ou qui ne connaît pas les fins de mois difficiles, mais pourquoi c'est toujours des milliardaires ? On parlait de Vincent Bolloré, et plus loin, Donald Trump, qui a été élu aux États-Unis. Pourquoi on voit qu'Éric Zemmour, ça se passe plutôt bien pour lui, vend des livres. Pourquoi c'est les gens, finalement, qui connaissent, eux, des fins de mois difficiles, qui... votent ou qui veulent voter pour des gens qui sont qui payent l'ISF.
Et oui, bah alors voilà, ça c'est j'avais pas forcément prévu de traiter cette question là dans cet entretien, je n'ai pas fait ma fiche sur pourquoi les pauvres votent à droite. Une des explications, c'est tout simplement le lien intrinsèque entre le maître et son serviteur.
Ouais.
C'est bête, hein, peut-être de dire ça, c'est très caricatural, mais sans maître, il n'y a plus de serviteur, hein, vous voyez, donc il y a un lien en fait étroit comme ça, hein, ouais. depuis très longtemps, bien sûr, entre les classes populaires, si on peut dire, et les élites. Hein, y a vraiment, ils sont obligés, si on peut dire, on est obligés de travailler ensemble, quoi, dans l'état du moins actuel du système.
Ça marche aussi avec Jean-Luc Mélenchon. Hein, je crois qu'il y en a des plus fortunés. Je crois qu'il y avait le plus gros patrimoine hein, aux dernières ouais. élections présidentielles.
Tout à fait.
Parmi les candidats.
Tout à fait, Jean-Luc Mélenchon, qui, rappelons-le, était en son temps le plus jeune sénateur ouais. de gauche. Voilà. Bon. Le second titre, donc, pourquoi les riches votent à gauche ?
Oui.
Ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Vous voyez, en effet, pourquoi ? Et c'est une réalité hein, qu'on observe. On l'appelle la gauche caviar ouais. aujourd'hui en France. Mais également, pourquoi les riches votent à gauche ? Voilà, pourquoi ils ne veulent pas, tout simplement...
C'est une droite quinoa.
Intéressante métaphore et comparaison. Voilà. Donc, avec ses deux premiers ouvrages, déjà, en fait, Thomas Frank a posé les jalons ouais. de sa vision du populisme. Pour lui, le populisme est forcément à gauche. Hein. Le populisme, c'est forcément le peuple, c'est-à-dire les classes, entre guillemets, populaires, les basses classes, les classes qui ont tendance à être opprimées, dirigées, régentées par des classes supérieures. C'est très, très simple, finalement, ouais. en fait, le populisme de Thomas Frank. Alors là, on va devoir aller un peu au cœur des choses, hein, après cette introduction déjà assez conséquente. je vais devoir vous lire un tout petit passage qui, oui. Tout de suite, qui va
Lisez
ancrer
vieux.
Les choses. Voilà, ça, une lecture qui va tout de suite poser voilà, les jalons de ce populisme à Thomas Frank. Je cite « Populisme est le mot qui vient aux lèvres des très respectables et des surdiplômés qui assistent à ce dérèglement du système mondial. Populisme est le nom qu'il donne à l'avalanche qui s'abat sur l'Eldorado alpin de Davos. Populisme est le qualificatif qu'ils emploient pour caractériser la mutinerie qui risque de transformer le navire-major America en une épave près de sombrer. Par ce seul mot de populisme, c'est la logique de la foule dangereuse qu'ils font apparaître. C'est le peuple comme une grande bête déchaînée. » Voilà, donc vous voyez, ce mot de populisme, en fait, est utilisé. Ça dépend dans quelle oui. bouche, vous voyez.
Et on ne peut faire aucun anagramme avec.
Peut-être des paronomases, on peut faire peut-être des contre-pés également. Mais voilà, pour dire que... Ce mot de populisme, ça va bien sûr dépendre, en fait, le sens qu'il va prendre, ça va dépendre de la bouche par laquelle il est prononcé, hein, et oui. Avec quels objectifs. Le postulat, en fait, fondamental hein, de Thomas Frank, c'est ce que Noam Chomsky a appelé la démocratie scare, c'est-à-dire la peur de la démocratie par, en fait, les classes dirigeantes. Hein, vous voyez, pour eux, tout simplement, trop de démocratie nuit à la démocratie. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que là, si le peuple commence vraiment à se répandre dans les rues, à demander, à avoir des revendications très concrètes, très strictes, il y a trop de démocratie. Hein, ça va pas. Il faut réprimer ce peuple. Là, Thomas Frank cite d'éminents journalistes, notamment Andrew Sullivan en 2016 dans le journal The Foreign Policy. Je cite... Les démocraties prennent fin quand elles sont trop démocratiques. Ou un peu plus loin, et là vraiment c'est parlant, il est temps pour les élites de se lever contre les masses ignorantes. Vous voyez ces masses ignorantes qui ont élu Donald Trump, qui ont participé au Brexit. Vraiment, il faut les corriger. Hein, il faut rentrer un peu dans l'ordre. Également, une simple citation prise sur le site internet de l'université de Stanford pour le projet de recherche Global Populisme, co-dirigé d'ailleurs par une figure de l'ancienne administration Obama, dit, je cite, « Les partis populistes sont une menace pour la démocratie libérale ». Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que populiste, vous voyez, c'est un terme qui est utilisé. C'est étonnant parce que parfois, on devrait plutôt utiliser démagogue, ou alors ouais. nationaliste, ou alors nativiste, ou alors raciste, ou alors fasciste. Mais le terme de populiste recouvre, en fait, vous voyez, toutes ces tendances extrêmes. Pour Thomas Frank, clairement, le populisme, et là, je vais en parler maintenant, ça date de 1891, aux États-Unis, le People's Party, pour faire vite, au Kansas, une ligue de fermiers qui était complètement étranglée par la spéculation, vous voyez, par le monopole, notamment lié au chemin de fer. Donc, ces fermiers se sont constitués en People's Party, vous voyez, pour entamer, en fait, le bipartisme américain, hein, républicain, démocrate. En fait, les fermiers s'apercevaient que c'était pareil, hein, vous voyez, démocrate ou républicain, on arrivait à la même absurdité qui était à cette époque-là, vous voyez, comme il n'y avait plus de débouchés intéressants commerciaux parce que tout était sous la spéculation et sous le joug des spéculateurs, ils en venaient, les fermiers du Kansas, à brûler le maïs dans leurs poêles, vous voyez, pour se chauffer, parce qu'ils n'arrivaient même plus à le vendre assez cher.
Donc le populisme part de la campagne, en fait.
Le populisme, ça part du fermier, ça part de la base, en fait, hein, tout simplement, hein, vous savez, les fermiers et les paysans, c'est la classe la plus importante au monde, en fait, hein, même encore aujourd'hui.
Oui, ça se tient.
Voilà, donc en fait, ça, c'est la base. Et donc, ils ont monté le People's Party, voilà, contre ce bipartisme. Ils ont ce nouveau parti. Qu'est-ce qu'ils voulaient en 1891? Ben, tout simplement, chasser les notables, en fait. Hein, chasser les notables plutocrates, vous voyez, du pouvoir. Hein. Ils s'étaient aperçus, en effet, qu'il y avait une captation des richesses, simplement par un petit nombre d'individus. Thomas Frank souligne d'ailleurs, ça c'est très très intéressant, le discours, si vous me permettez juste de citer deux trois phrases de ce discours d'un député populiste, donc du People's Party, en 1900, un des derniers députés au Congrès. Voilà ce que disait à l'époque un député populiste, je cite: « Les nations devraient avoir le même droit parmi les nations que les hommes parmi les hommes. Le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur est aussi cher à l'homme noir et brun qu'au blanc, aussi précieux aux pauvres qu'aux riches, aussi juste pour l'ignorant que pour l'homme instruit, aussi sacré pour le faible que pour le fort, et il s'applique aux nations autant qu'aux individus. Et la nation qui renverse un tel droit par la force n'est pas mieux gouvernée que l'homme qui se fait justice lui-même. » Vous voyez, ce discours-là, il est profondément humaniste.
Oui, hein. Oui, il y a deux, trois trucs qui ont changé en un siècle, si je puis me permettre.
Ah oui, ben, mais oui, voilà, ça, parce que ça, c'est le populisme originel, en fait. Vous voyez, après, bien sûr, il y a eu un éclatement, là, notamment vers l'extrême droite, qui essaie de récupérer ça. Mais vous voyez, voilà, le populisme originel...
Plus c'est, que ça veut dire.
Voilà, mais le populisme originel, c'est ça. C'est humaniste, collectiviste, si on peut dire. C'est vraiment les valeurs, les droits de l'homme. C'est, vous voyez, mais complètement à l'opposé, vous voyez, du sens qu'ont voulu mettre, peut-être, certaines élites, certains journaux également, sur le mot populisme, hein, qui a été complètement dévoyé. Donc c'est passionnant, vous voyez, de voir la genèse, justement, et l'histoire en fait d'une idée, hein, sous la plume de Thomas Frank, dans cet ouvrage extrêmement accessible. Ensuite, en plusieurs, il y a une dizaine de chapitres. Ce qui est intéressant, je vais juste vous lire un ou deux titres de chapitres pour vous montrer que c'est pas du tout, voilà, un ouvrage, comment dire, universitaire, historiographique.
Ouais, chiant.
Très pointu, chiant. Voilà. Ça donne envie, vous voyez, quand on lit ces titres. Chapitre 4, par exemple, le soulèvement des inaptes. Ou alors, chapitre 8, blâmons maintenant les ignares. Ce sont des titres qui sont souvent ironiques.
Un petit côté des progiens.
Non, mais carrément, ce sont des titres ironiques. Ouais. Hein, c'est souvent la voix, justement, des élites, hein, dont il se fait le relais. Donc, c'est vraiment, voilà, un ouvrage passionnant qui va vous montrer tout au long du XXe siècle et comment, notamment, Roosevelt, par exemple, en 1930, avec le New Deal, était un communiste avant l'heure. Hein, et comment Roosevelt, d'ailleurs, a essuyé les foudres des antipopulistes. Parce qu'il parle des populistes, mais aussi des antipopulistes. Hein, sous la plume de Thomas Frank, les antipopulistes sont bien évidemment les puissants qui vont se servir du mot populiste en le dévoyant, et notamment l'excellent exemple du New Deal et de la campagne qu'a affronté Roosevelt anti-peuple, quoi. C'était incroyable comment 80% des médias, selon certains comptages à l'époque, étaient contre Roosevelt, hein, parce que, bien évidemment, les médias étaient à la solde des puissants. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage passionnant qui vous fait rentrer dans les complexités de l'histoire et qui vous met vraiment, qui vous clarifie clairement la situation, aussi bien donc historique que actuel. Ça permet un peu de se placer dans cet échiquier bien troublé que nous vivons aujourd'hui.
Bon, ben ça va pas faire plaisir aux populistes d'aujourd'hui, justement. On va faire une petite pause musicale. On va parler d'ici quelques minutes de littérature étrangère, de migrants des lettres qui arrivent chez nous. Et on se fait déjà une petite pause musicale exotique à travers les continents, notamment l'Amérique du Sud. Break.
De retour avec Romain Baxer et le réseau Librairie Social Club La Louva Saint-Sevé et Caractère à Mont-de-Marsan pour parler du week-end à venir et de la fin de la semaine consacrée aux littératures étrangères. Festival Lettres du Monde avec bah, les bouquins, mais surtout avec leurs auteurs, et ça c'est bien. Le programme se décline sur ce week-end, vendredi et samedi. Comment que ça se passe ?
Alors ben, voilà, nous avons donc la chance de recevoir trois auteurs de la littérature francophone. La littérature francophone n'est pas écrite qu'en France. Elle peut être écrite au Vietnam avec Anna Mog, dont vous avez, je crois, largement parlé.
Ouais, qui sera l'invité donc de...
Qui sera l'invité donc à la médiathèque du Marsan, voilà, samedi à 15h.
Et non pas 14h comme je l'ai annoncé, hein, c'est bien 15h.
Ouais, c'est bien 15h. Et Babette Marsenac et moi-même, nous prendrons en charge donc, la modération, comme on dit. C'est-à-dire, nous essaierons de faire parler Anna Mog de son œuvre et des problématiques extrêmement riches.
Toujours en lien avec ses origines et avec son pays.
Ouais, tout à fait. Voilà, elle est souvent comparée à Duras. Passionnant, on va rentrer voilà, dans ce conte-là, 12 palais de mémoire, publié aux éditions Gallimard. Donc ça, c'est samedi. Hein, je commence par la fin, en fait, hein, parce que le premier auteur à venir à Mont-de-Marsan, donc de la littérature francophone, envoyé donc par le festival Lettres du Monde, sera Jean d'Amérique, vendredi soir à 19h à la librairie Caractère. Ça va être le premier rendez-vous vraiment d'importance. Pourquoi ? Parce que Jean d'Amérique,
c'est
une jeune voix de la littérature haïtienne. Ouais. C'est vraiment un auteur qui a été un tout jeune auteur qui vient juste là d'être récompensé par le prix Apollinaire Découverte 2021 pour son recueil Atelier du silence. Hein. C'est un auteur de poésie, vous voyez, haïtien, c'est vraiment, on est dans l'oralité. Il avait également eu en 2019 le prix de la vocation Chêne. Chêne, fameux éditeur de poésie qui imprime encore aux presses typographiques. Et il vient également de recevoir pour son premier roman aux éditions Actes Sud, Soleil à coudre, le prix du premier roman 2021 de la Société des gens de lettres. Voilà, donc c'est vraiment un jeune auteur, une jeune voix largement primée, largement remarquée, et c'est son donc premier roman dont nous allons parler essentiellement vendredi soir à 19h. La rencontre sera animée par notre ami et cher lecteur Olivier Sadoul. Voilà, pour dire un petit mot sur cette littérature haïtienne, et notamment ce livre-là, je vous lis la petite note d'intention, c'est une fable cruelle, gonflée de peau de désir et de sang, où la naïveté d'une enfance impossible se cogne à la crudité sans pitié du monde. Voilà, vraiment un texte court, bref, incisif, d'un auteur qui n'écrit que de la poésie avant, donc grande dimension de l'oralité. Vraiment, on se réjouit de recevoir Jean d'Amérique vendredi à 19h.
Il me plaît, lui, sur le papier.
Le deuxième auteur, en fait, que nous allons recevoir à la librairie, ce sera le lendemain, donc le samedi 27 novembre à 11h30. Là, c'est un peu une matinale, notez-le, 11h30, c'est un peu inhabituel dans notre agenda. Nous recevrons cette fois-ci l'auteur québécois Antoine Desjardins. La modération sera assurée par notre éminente collègue Aurore Pourny, qui a vraiment adoré, qui est tombée sous le charme de ce recueil de nouvelles publié aux éditions La Peuplade, hein, des éditeurs québécois également qui sont distribués en France. Et Indice des Feux, voilà, elle a vraiment adoré ce recueil de nouvelles en 8 nouvelles. Antoine Desjardins, c'est vraiment très très fort. Elle m'en a fait lire des passages ce matin. Ouais. Antoine Desjardins, en fait, nous met dans des situations à chaque fois de quotidien où le monde s'écroule imperceptiblement autour de nous. C'est-à-dire que c'est une des fables écologiques, hein, on pourrait les lire comme ça apparemment, c'est-à-dire des considérations... La planète, la nature, l'écosystème et le climat sont en train d'être déréglés. Et malgré tous ces dérèglements qui entourent ces personnages, eh bien, chacun va devoir tenir bon son quotidien, si on peut dire. On en est tous là, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a notre quotidien, on a nos préoccupations, on a les préoccupations de la nature, mais comment les deux se répondent. Voilà, c'est une façon de vivre au monde, en fait, dans ce recueil de nouvelles d'Antoine Desjardins, Indice des Feux. Elle l'aurait beaucoup mieux dit que moi. Venez samedi matin à 11h30, littérature et écologie, voilà, et peut-être collapsologie, avec Antoine Desjardins, jeune voix de la littérature québécoise.
Et Anna Mog dès l'après-midi à partir de 15h, on le rappelle, à la médiathèque du Marsan, médiathèque Philippe Labeyry. On a fait le tour du monde et le tour du populisme. Le truc, c'est qu'on n'en a pas fini. Voilà.
Non, on n'en a pas fini. Et vous savez bien, je répète régulièrement cette petite phrase de Flaubert, l'imbécilité, c'est de conclure.
C'était bien le petit silence là derrière.
MDM, tout un monde.
Tout un monde.